Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi d'écouter cette émission sur Canal Académie. Nous connaissons tous cette figure mythologique, celle du beau jeune homme, Narcisse, qui se mirant dans l'eau d'une fontaine tombe amoureux de son image ou de son reflet. Mais comment s'est construit ce mythe? À quelle époque et dans quelle partie de la Grèce antique? Et cette figure n'est-elle qu'imagination reprise par les artistes ou les écrivains? Ou bien s'appuie-t-elle sur des données précises que l'archéologie et l'épigraphie peuvent révéler? Toutes ces interrogations et bien d'autres encore, nous avons le privilège de pouvoir les poser à notre invité, Denis Knöpfler, membre associé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2003, qui vient de publier aux éditions Odile Jacob un ouvrage de fond sur ce mythe intitulé « La patrie de Narcisse », un ouvrage qui porte en sous-titre « Un héros mythique enraciné dans le sol et dans l'histoire d'une cité grecque ». Et évidemment, le sous-titre aura toute son importance, on va sûrement le découvrir. Bonjour monsieur.
Bonjour
merci,
madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le studio de Canal Académie, studio dans lequel nous accueillons également deux jeunes élèves de l'école d'art Coronin à Paris, qui ont particulièrement travaillé sur le mythe de Narcisse dans l'art et qui vous poseront, si vous le voulez bien, chacun une question.
Volontiers.
Denis Knöpfler, vous êtes de nationalité helvétique, vous êtes un helléniste réputé, professeur au Collège de France, où vous tenez la chaire d'épigraphie et d'histoire des cités grecques. En Suisse, vous avez enseigné la langue et la littérature grecque à l'université de Neuchâtel, puis
histoire
à Genève.
Et l'archéologie surtout.
Et à l'Académie suisse des sciences humaines à Berne, vous êtes expert pour l'épigraphie et la numismatique grecque et vous êtes membre étranger de l'école française d'Athènes. Pardonnez-moi, je ne peux citer qu'une partie de vos publications, de vos titres, mais on trouvera sur le site de l'Académie tout ce qu'il faut pour s'informer plus à fond. Mais je voudrais dire aussi qu'en Grèce, vous avez mené de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques.
Oui.
En Béotie et dans l'île d'Eubée. Et en particulier dans sa région dont vous allez nous parler, l'Érythrée. Et cela, dès 1972, ça fait à peu près 40 ans.
Même davantage.
Oui. Un peu davantage. Ma première question concernera donc, monsieur, cette région, l'Érythrée. Où se situe-t-elle en Grèce particulièrement?
Plutôt que l'Érythrée, disons l'île d'Eubée.
Oui. Hein,
grande île de quelques 200 km de long, qui est comme un bouclier de toute la côte orientale de la Grèce, pas très éloignée d'Athènes, mais s'étendant vraiment très en longueur. Et dans cette île, plusieurs cités antiques, dont une des quatre principales, et l'une des peut-être deux principales, qui s'appelle Érythrée. Érythria en grec, Érythrée dans sa forme francisée, dans la partie centrale de l'île, c'est-à-dire à proximité de deux régions continentales très importantes. D'un côté, la Béotie. Et de l'autre, l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes. Une position extrêmement centrale du point de vue de la navigation, aussi des relations avec la mer Égée.
Alors si vous le voulez bien, je voudrais que nous parlions d'abord de ce mythe, et puis vous viendrez ensuite à nous parler des découvertes que vous avez faites, des hypothèses que vous émettez dans votre livre « La patrie de Narcisse », publié aux éditions Odile Jacob. Hypothèse qui, d'une certaine façon, révolutionne notre regard sur ce mythe. Alors, ce mythe, il est mentionné dans Ovide, comme beaucoup de mythes d'ailleurs, dans les Métamorphoses, au chapitre 3. Est-ce la seule source?
Ovide est certainement la source la plus développée, la plus connue, la plus poétique, la plus détaillée, et qui a inspiré l'essentiel des artistes et des écrivains par la suite. C'est vraiment le texte de référence dès le Moyen-Âge, mais ça n'est pas le seul et c'est certainement pas le plus ancien. Une autre version qu'on peut citer d'emblée, parce qu'elle est également connue, elle est grecque, donc à la différence d'Ovide qui écrit en latin, et elle a pour auteur un écrivain à la fois connu et pas connu, c'est Pausanias. Pausanias, auteur d'une périégèse de la Grèce, c'est-à-dire d'une description, dont notamment la Béotie, et c'est dans un livre sur la Béotie, au livre 9, que Pausanias est amené à évoquer assez rapidement, mais quand même de manière précise, en un endroit de la Béotie, autour de la ville de Thespie, le mythe de Narcisse, qu'il donne, il faut le marquer au passage, qu'il donne comme quelque chose de connu. Ça n'est pas parce que nous n'avons pas beaucoup de choses antérieures. Pausanias lui-même ne vit qu'à l'époque des empereurs Antonin du IIe siècle de notre ère. Ça n'est pas parce qu'il nous manque beaucoup de choses que ce mythe est né à l'époque d'Ovide ou de Pausanias. Encore une fois, Pausanias n'a pas la prétention de faire connaître ce mythe à ses lecteurs. Il le tient pour connu d'eux. Mais il leur indique, chemin faisant, puisqu'ils voyagent, voilà, ici, il y a une source qu'on appelle la source de Narcisse, parce que c'est l'endroit où le jeune homme s'est vu dans l'eau, et comme vous l'avez rappelé, c'est toute l'essence du mythe lui-même qui est très simple dans ses grandes.
Donc Pausanias situe bien le mythe en Béotie.
Alors incontestablement, ça, c'est indéniable, ça signifie qu'à son époque, dans cette cité de Thespie, on considérait que le héros était chez lui, non pas dans la ville même, mais dans le pays de Thespie. Ce pays de Thespie qui est connu dans l'histoire à cause d'une montagne sacrée qui s'appelle l'Hélicon. C'est la montagne des muses, c'est la montagne des poètes. Donc elle avait une grande célébrité. Et Narcisse a été rattaché à cet ensemble. On a d'ailleurs un très beau témoignage sur cette tradition incontestable à l'époque impériale. L'empereur Hadrien, vous savez, l'empereur aimé de Marguerite Yourcenar, a laissé à Thespie, ayant voyagé vers les années 120, il a laissé un petit monument, une épigramme. Vous savez qu'il était poète, rien cultivé, connaissant toute la mythologie grecque. Il a laissé un petit poème que l'on a retrouvé à Thespie même, et qui n'est pas fondamentalement consacré à Narcisse, mais au dieu principal de Thespie, qui est Eros, le dieu de l'amour. C'était la patrie de ce dieu puissant, mystérieux, Eros, auquel a été associé Narcisse, apparemment, à partir d'un certain moment. Et l'épigramme en question mentionne côte à côte Eros, dieu principal, qui habite près du jardin fleuri de Narcisse. C'est une jolie formule.
En dehors de ces sources littéraires, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'objets qu'on a trouvés représentant Narcisse ?
Alors, ce qui est tout à fait remarquable et qui contraste par rapport à d'autres mythes grecs, à la tradition iconographique, comme on dit, picturale, ce mythe de Narcisse, il n'apparaît pas précisément avant l'époque romaine dans les représentations figurées. Donc il y a comme un synchronisme, une simultanéité entre le moment où Narcisse fait irruption dans la littérature, la grande littérature avec Ovide, qui n'est certainement pas l'inventeur du mythe, ça il faudra bien le marquer, et son apparition également à l'époque d'Auguste, qui est l'époque d'Ovide, au premier siècle de notre ère, et notamment pour nous, parce que beaucoup de choses ont disparu dans la peinture. Mais il reste, vous savez, par miracle, pour Narcisse comme pour les autres thèmes iconographiques, le site de Pompéi en particulier, figé en quelque sorte, scellé par le tremblement de terre de 79. Et là, on a alors une floraison extraordinaire de représentations de Narcisse qui montre que, en tout cas, à ce moment-là, dans ce milieu-là, à Rome même, il a connu un succès extraordinaire.
J'ai lu dans votre livre une cinquantaine de maisons qui, justement, étaient décorées de ces mosaïques.
Oui, et puis il nous en manque beaucoup, sans doute. Et Pompéi n'était, il faut bien le voir, qu'une petite ville de province qui a miraculeusement survécu d'une certaine manière, alors que dans les grandes cités, il y avait certainement des œuvres peut-être plus importantes encore.
Alors jusqu'à présent, donc, il était donc admis que Narcisse, et vous l'écrivez dans la page 57 de votre livre, Narcisse est une figure du panthéon béotien dont le berceau doit être situé quelque part aux confins du territoire de Thèbes et du lac Copaïs, plus précisément dans la partie septentrionale du pays de Thespie, et c'est là qu'on l'a toujours situé. Mais voilà, vous
la
justement,
Béotie. La Béotie. Je ne conteste pas, si vous voulez, frontalement cette thèse, parce que la Béotie, c'est un concept élastique. Il y a la Béotie proprement dite, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et il faut bien voir que la Béotie a été, selon les époques, très étendue, a débordé, même sur l'île de Bé. Donc fondamentalement, je pense que l'idée d'un héros, qui de toute façon est extraordinairement liée à un coin, à une partie seulement de la Grèce, qui est cette Grèce centrale. Pas du tout dans le Péloponnèse, par exemple. Pas du tout dans les îles. C'est vraiment là. Hein. Et c'est apparent, donc, à travers, on l'a dit, Pausanias, pour l'Hélicon, mais aussi à travers Ovide, puisque Ovide place de façon très intéressante le mythe de Narcisse dans une espèce de cycle épique, de cycle autour de la cité de Thèbes, considérée par les anciens comme la plus ancienne, une des plus prestigieuses cités de Grèce, le mythe de Narcisse, de manière plus ou moins artificielle, il y a de l'artifice, mais il n'empêche, c'est très bien construit, Ovide a fait de lui un élément de cette mythologie thébaine. On devrait dire aux côtés du très célèbre Édipe, mais précisément, Édipe manque chez Ovide. Et on s'est demandé récemment, de bons chercheurs se sont demandé si Narcisse n'était pas venu en quelque sorte se substituer par une décision tout à fait délibérée d'Ovide, bien entendu. Il ne s'est pas substitué à Édipe. C'est peut-être un peu aventureux, mais il n'empêche que vu la structure très élaborée de ce champ 3 des métamorphoses, ça n'est pas arbitraire.
Alors néanmoins, et bien que vous reconnaissiez donc la patrie de Narcisse en partie dans cette Béotie, vous avez fait des découvertes archéologiques qui vous font penser que sa patrie véritable serait plutôt dans l'île de Bé et particulièrement dans cette région d'Érétrie. Alors qu'avez-vous découvert ?
J'ai découvert quelque chose qui permet de confirmer peut-être des indices qui existaient antérieurement dans des œuvres qu'on pourrait dire paralittéraires, qui n'avaient pas attiré beaucoup l'attention, qui étaient beaucoup moins amples et célèbres que Ovide et Pausanias. Mais on y reviendra, si vous voulez, dans un instant. Allons à la découverte. Cette découverte, elle a consisté en deux inscriptions mises au jour un peu par hasard à deux années d'intervalle. Il y a déjà pas mal d'années, il y a déjà plus d'un quart de siècle, mais qui sont restées inédites parce que j'attendais le moment propice pour les présenter au public. Ces inscriptions attestent de manière indirecte, mais de façon néanmoins très précise et indiscutable, je crois, l'existence dans cette île de Bé, dans cette cité d'Érétrie, d'un culte de Narcisse. Adoré sous le nom pratiquement identique, ce n'est qu'une variante, si vous voulez, locale, dialectale, de Narcitos. Le nom grec de Narcisse, c'est Narcissos, avec deux S. Ici, c'est deux T, mais en réalité, ça ne fait aucun problème du point de vue linguistique, ça n'est qu'une variante qui entre dans un système tout à fait clair pour les spécialistes. Et alors, pourquoi indirect ? Parce qu'on n'a pas trouvé une inscription qui était vouée, par exemple, et qui était une consécration au héros Narcisse. Indirectement, c'est la mention d'une réalité qui s'appelle la Narcitis. Narcitis. Et qu'est-ce que c'est que la Narcitis ? Eh bien, ça a été donc en partie mon travail de le démontrer, de faire apparaître. La Narcitis, c'est une tribu au sens de subdivision civique de la cité d'Érétrie. Deux inscriptions qui attestent donc l'existence, tout à fait inconnue jusque-là, d'une tribu portant ce nom de Narcitis. Narcitis. Or, si l'on a donné à une des tribus des subdivisions, en fait, j'ai montré qu'elles étaient au nombre de 6. Hein, si on a donné le nom de tiré de ce héros, c'est nécessairement, et la comparaison notamment avec le système athénien le montre bien, que Narcitos faisait l'objet d'un culte, qu'il était parmi les héros adorés de cette cité, de ce coin de pays, parmi les plus anciens, les plus prestigieux. On ne choisissait pas au hasard, quand on avait 6 subdivisions et qu'on avait peut-être 50 héros et des dieux, mais surtout des héros en l'occurrence, on a choisi les plus prestigieux, ceux qui paraissaient les plus locaux attachés. Voilà, donc ces inscriptions elles-mêmes ne datent entre guillemets que des alentours de 300 avant Jésus-Christ. Il n'empêche que ça fait déjà 3 siècles de gagner, en quelque sorte, vers le passé par rapport à Ovide, sans parler même de Pausanias. Mais comme ce système, on a toute raison de le penser, je ne vais pas développer cela ici, qui est un peu technique, on a toute raison de penser qu'il remonte l'ensemble du système, les 6 tribus, aux années de révolution démocratique, comme à Athènes, dans les mêmes moments, les alentours de 500 avant Jésus-Christ. Vous voyez que, par un raisonnement qui est simple de déduction, cela prouve que vers 500 avant, déjà, donc un demi-millénaire plutôt que Ovide, on avait dans ce coin de pays un héros, Narcitos, assez connu pour donner son nom à une des subdivisions politiques du corps civique de cette cité démocratique.
Voilà. Et ça prouve aussi donc une organisation démocratique, c'est un système politique comme
la
vous
tribu,
le dites.
La tribu, c'est effectivement toute cité, en tout cas organisée, et surtout les cités démocratiques, précisément, où le corps civique est appelé à intervenir, à voter, à élire, est fondée en Grèce sur un système de tribus. Donc il faut prendre le mot tribu, fulet. Il ne faut évidemment pas prendre le mot tribu au sens, comment dire, ethnologique. Ce ne sont pas des catégories, des communautés distinctes du point de vue de la langue. Ce sont des subdivisions artificielles, d'une certaine manière, mais qui structurent et qui permettent de mieux faire participer les citoyens à travers ces structures.
Mais vous dites qu'on vouait un culte à Narcisse. Avez-vous retrouvé des traces d'un sanctuaire à
Narcisse ? Alors, on va peut-être, avant d'y venir, faire un tout petit détour par ce qui était un indice jusque-là, depuis toujours, mais un indice qui avait été négligé parce qu'on ne voyait pas trop bien qu'en faire, d'un culte de Narcisse. Et qui dit culte, dit donc un petit sanctuaire. Quand je dis sanctuaire, il ne faut pas nécessairement imaginer un temple considérable, mais un espace consacré. On avait effectivement, sur la côte, immédiatement en face d'Érétrie, donc sur le continent déjà, dans une zone très disputée entre ces deux régions voisines que sont l'Attique et la Béotie, la région d'Oropos, on avait, comment dire, un monument qui célébrait le héros Narcisse, qualifié précisément d'Érétrien, d'originaire d'Érétrie, et qui nous le disait, pas le premier venu, un contemporain d'Auguste, là encore, un des plus grands géographes de l'Antiquité, Strabon. Strabon, lui-même, n'ayant pas vu l'endroit, mais travaillant sur de bonnes sources, dans cet énorme effort qu'il a fait d'une géographie universelle de la Méditerranée, eh bien pour cette région, il dit, il y a là un emma, un monument commémoratif du héros Narcisse dit l'Érétrien, que l'on appelle le silencieux ou le silencière, parce que, Sigelos, parce que quand on passe devant, il s'agit de respecter le silence. Un silence, donc, qui n'est pas, c'est un silence religieux. Il ne s'agit pas simplement de respecter un mort, parce que ça n'aurait rien de très particulier, mais il s'agit certainement d'un héros dangereux, d'un héros avec qui on ne doit probablement pas entrer en contact. Il est lié à la mort, au monde des morts, à la dèche, et peut-être a-t-il disparu dans des conditions peu claires. Il n'est pas vengé, il y a un lien dangereux avec ce Narcisse. Mais au-delà de ça, donc, on voyait chez Strabon Narcisse l'Érétrien. Pourquoi Érétrien ? Et aujourd'hui, ce qui est un des côtés les plus attachants, disons, de cette découverte, c'est que l'inscription, elle donne raison. Elle explique exactement pourquoi Strabon parlait de Narcisse l'Érétrien.
Mais en Érétrie même, vous n'avez pas forcément délimité un sanctuaire, un endroit particulier.
Non, mais c'est là que...
Mais il y a encore des fouilles à faire, peut-être.
Ah, on est en plein dans les fouilles. Et c'est là que j'ai fait une hypothèse. J'ai fait une hypothèse dont je ne conteste pas le caractère audacieux, mais qui a l'intérêt d'amener à réfléchir, peut-être de susciter la contradiction et puis de progresser. C'est que ce héros Narcisse avait un lien congénital et un lien très profond et très ancien avec la principale divinité, donc non plus dans l'ordre des héros, parce que les héros se trouvent entre les dieux et les hommes, un peu à un étage intermédiaire. Et ils entretiennent des liens avec les uns comme avec les autres. Alors, ce héros Narcisse, selon moi, a un lien extrêmement fort avec la déesse Artémis, qui est la principale divinité des Érétriens. Le sanctuaire, situé dans le territoire, très honoré, l'objet de processions considérables, un culte développé, de concours, etc. Pourquoi ce rapprochement ? Il n'est pas totalement arbitraire, quand même.
Je pense, oui.
C'est que... Une tradition qui avait été négligée parce qu'elle était très tardive, elle semblait ne pas avoir beaucoup de consistance, nous indiquait que le héros Narcisse, venant de l'île d'Eubée, plus précisément d'Érétrie, ex-Érétria, un texte de la basse antiquité, un commentaire au bucolique de Vigile, disait que ce héros était fils d'Amarintus. C'était passé inaperçu. Fils de Marintus, pourquoi on l'avait ainsi relié à un héros lui-même assez obscur. Mais en réalité, Amarintus, c'est le héros lié, c'est le héros qui porte le nom du sanctuaire d'Artémis à Amarintos. Amarintos, un très vieux nom, pré-hellénique, déjà attesté à l'époque mycénienne, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et qui nous fait, et vous voyez que, tout ça entraîne Narcisse vers le haut, non seulement 500 avant Jésus-Christ.
On remonte dans le
mais
temps.
On remonte, jusqu'au moins au deuxième millénaire. Alors, c'était cela, d'une part, qui m'a mis, si l'on peut dire, la puce à l'oreille et m'a autorisé à faire ce rapprochement qui, sans ça, aurait pu paraître un peu arbitraire, d'un héros, d'un jeune Éphèbe, Et vous savez qu'Artémis, dans les cités, c'est elle qui surveille les jeunes gens et préside à leur intégration dans la cité. C'est une déesse qui est un peu hors de la ville, en lien avec le monde sauvage. Et les êtres jeunes sont sauvages, d'une certaine manière. Il faut les éduquer, il faut les faire entrer dans le système de la cité. Et donc, ce lien avec Narcisse n'était pas tellement surprenant. Un héros qui, bon, d'une certaine façon, était resté en marge, qui ne veut pas entrer.
Un peu refusé de s'intégrer.
Oui, c'est une espèce d'éphèbe récalcitrant.
Voilà.
Un
éphèbe
récalcitrant qui ne veut pas aimer, qui ne veut pas... Parce qu'il ne répond pas à l'amour, donc il refuse aussi, à terme, il refuse de procréer. Et ça, c'est un devoir de l'homme grec que de créer une famille. Il reste en dehors de tout cela. Et pour en terminer avec cet aspect, ce qui m'a confirmé dans cette hypothèse, car je ne conteste pas que ce soit une hypothèse malgré tout, c'est qu'on peut établir un parallèle extrêmement probant à mes yeux entre ce couple, si l'on veut, Narcisse, Narkitos et Artémis, l'Artémis d'Amarynthos, pour le B, et la figure, une autre figure florale, celle de Hyakintos, Jacinthe, Hyacinthe, dans une autre région de Grèce, en Laconie, près de Sparte, où il est, lui, adoré aux côtés du dieu Apollon. Et donc, une relation complexe de part et d'autre, de figures tout à fait comparables, me semble-t-il.
Nous allons donner la parole à deux jeunes élèves qui vous écoutent avec grande attention. D'abord, Anna Molière, Anna de l'école Corona. Anna Molière, quelles questions souhaitez-vous poser à monsieur Denis Kupfler ?
Finalement, j'avais plusieurs questions. La première était, le mythe de Narcisse a-t-il beaucoup été représenté en art ? Et si oui, pourquoi a-t-il tant inspiré les créateurs ?
D'abord, entendons-nous, il y a l'Antiquité, où on a vu, on a évoqué des représentations assez nombreuses, surtout sur le plan pictural, pas exclusivement. On a aussi des mosaïques, ce qui se rattache à l'art pictural, et puis de la sculpture. Donc, un mythe bien représenté à partir d'une certaine époque. Il a séduit, parce que d'abord, c'est une histoire amoureuse d'un type tout à fait nouveau. Ovide disait une fureur nouvelle, une fureur novitas furoris. Parce qu'évidemment, c'était étrange. C'était ressenti comme tel qu'on puisse tomber amoureux de soi-même par le biais du reflet aquatique. Et ce côté un peu morbide, peut-être, qui n'était pas l'aspect le plus ancien, sans doute. Le Narcisse Béen, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait connu cet épisode. Il a peut-être été même tué dans toute autre condition. Tout ça, c'est vraiment alors encore obscur. Mais il y a eu, donc, à partir d'Ovid, un goût marqué pour cette histoire étrange qui permettait aux peintres aussi de... Vous êtes peut-être sensible à cet aspect, comment dire, technique, cette performance. Il fallait, tout de même, ce qui n'était pas rien, de représenter un jeune homme et de représenter son reflet. Et les peintres, évidemment, avec une certaine émulation, ont joué sur ces deux visages qui devaient être à la fois semblables et différents, et en tout cas sur un fond, un décor différent. Il y avait une prouesse, d'une certaine façon, je dirais.
D'accord. Mais enfin, c'est indéniable que c'est intéressant pour un artiste de devoir représenter donc Narcisse et son reflet.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit que des gens un peu lambda étaient très intéressés par Narcisse parce qu'ils se faisaient reproduire des images de Narcisse chez eux. Vous avez dit que vous avez retrouvé des
lambda. Je ne suis pas sûr qu'il soit si lambda que
non,
ça.
Non, pas forcément, mais c'est
un peu riche tout
non,
de même.
Oui. Non, c'est une sorte de grande demeure. Ce sont de grandes demeures. Ce sont des pièces de la parade de réception. Mais incontestablement, ça témoigne quand même d'un certain engouement général, au moins dans une certaine classe de la société, assez large. Oui, pas seulement chez les plus riches. Nous sommes de toute façon, je l'ai dit, dans une ville provinciale, ce qui est donc d'autant plus intéressant d'une certaine façon. Ça n'est pas seulement les plus grands de Rome, les empereurs, qui certes connaissaient à coup sûr comme Adrien Narcisse, mais plus généralement, il y a un engouement.
Ça, c'est l'art de l'Antiquité.
Ça, c'est l'art de l'Antiquité.
Alors
là, j'en parle sans compétence professionnelle, entendez-moi bien. Mais ce que je constate, en l'absence d'un travail qui réunirait, à ma connaissance n'existe pas, qui réunirait toutes les représentations de Narcisse à l'époque moderne, déjà à l'époque médiévale, moderne. Alors, on voit, effectivement, dès le XIVe siècle, aussi bien dans la littérature que dans l'art, émerger à nouveau, après un long silence, cette figure de Narcisse. Et dans la jaquette qui illustre le livre pour certaines éditions, mais où j'ai fait reproduire une œuvre qu'on peut voir à Paris, et qui est peu connue, mais que j'aime beaucoup personnellement, et qui a quelques liens avec l'Institut de France, c'est au musée Jacquemart-André. Elle est reproduite au
un
début.
Plafond,
un
voilà,
plafond, oui. Un plafond de la Renaissance italienne, et qui a été reconstitué dans ce musée du boulevard Haussmann, et qui montre un Narcisse étonnant parce que, pour moi, il n'est, voyez, il n'est pas, comme le plus souvent, il n'est pas isolé. Il est replacé dans un cadre, peut-on dire presque civique, puisqu'il y a un arrière-plan, une cité. C'est pourquoi j'étais séduit par cette représentation d'un Narcisse qui est un héros civique, d'une certaine façon. Bon, je pousse un peu, naturellement. Et surtout, cette représentation montre que, dès le XIVe siècle, au moins en Italie, Narcisse est mis sur le même plan que d'autres héros, à la fois mythologiques et également venus de l'Ancien Testament, et des figurations, des personnifications. Donc, il prend une espèce d'envergure, là, étonnante, dont témoigne également la littérature. Puis ensuite, alors, on peut dire qu'une fois qu'on a commencé, il y a eu un flot. Je suis très loin de les connaître toutes, et il m'arrive maintenant très souvent, ayant l'attention attirée, ou d'autres personnes l'ayant pour moi, me disent « j'ai vu tel Narcisse ». Je ne connais pas. Dans tel museum, on a signalé un Narcisse à Orléans, par exemple, du milieu du XIXe siècle. Il y a un très beau Narcisse actuellement dans l'exposition France 1500, une tenture italienne, sans doute, enfin, ou peut-être française d'inspiration italienne. Un Narcisse qui est devant une fontaine aménagée, une espèce de source de jouvence, superbe œuvre de la Renaissance. Vous en connaissez certainement d'autres ensuite, de manière presque continue. Jusqu'à quand ? Voilà. On pourrait se demander, pour vous, étudiant en art, jusqu'à quand est-ce que Narcisse a inspiré les artistes ?
Ouais, hein ? C'est ça, c'est ce qui est intéressant, hein, c'est cette fascination en fait, pour Narcisse, parce que c'est quand même un héros un peu tragique, parce qu'il meurt en plus.
Oui.
Oui. C'est très intéressant, cette espèce de fascination. Pour.
C'est pas un héros de la tragédie grecque, vous voyez. Oui. Il n'a pas été, parce qu'il est isolé, il est en quelque sorte un héros qui ne parle pas ou peu, qui n'a pas de. Mais il est à certains égards tragique dans sa destinée.
Alors Pierre Guillard, vous aviez une question à poser.
Moi j'avais une question, mais vous y avez plus ou moins répondu, parce que ma question c'était quelle était votre reproduction de Narcisse préférée. Donc peut-être que vous en avez une autre.
Allez, c'est la heure de la confession.
Oui, je ne voudrais pas faire une hiérarchie stricte, celle de cet artiste relativement peu connu, même disons, l'attribution à ce Mocetto n'est pas totalement assurée, mais pour moi elle est belle, elle me parle, disons, dans la perspective qui est celle de mon livre. Mais dans une autre édition, on a mis en page de couverture peut-être le Narcisse le plus célèbre, un peu postérieur. C'est déjà une œuvre alors, de l'époque classique. C'est le Narcisse du Caravage, qui est à Rome. Extraordinaire Narcisse, que je n'ai pas reproduit dans le livre, où il y a vraiment les deux figures. La figure réelle et le reflet se rejoignent quasiment.
Nous l'avons sous les yeux.
Elle est magnifique. C'est un chef-d'œuvre, bien entendu. Mais voilà, c'est le type même du Narcisse fermé sur lui-même. Hein, il n'y a rien autour. Il n'y a même pas non plus, comme alors la belle tradition de Poussin au Louvre et dans d'autres œuvres de Poussin, où on introduit une figure que peut-être Ovide a inventée. En tout cas, il est le premier à l'avoir mise ainsi en scène, cette figure de la nymphe Écho. Cette nymphe Écho qui est là pour accentuer d'une certaine manière la solitude de Narcisse. Vous savez, Écho, elle est repoussée par Narcisse. Vous me direz que c'est sa faute, bien entendu. Cette femme a été frappée d'une malédiction, elle ne peut pas parler autrement que par Écho. Donc Narcisse n'entend que les fins de phrase. Et alors Ovide, très habile, il joue sur l'équivoque de ces fins de phrase, mais c'est une figure qui n'existe pas chez Pausanias, qui n'existe pas ailleurs. Alors est-ce que Ovide l'a inventée ? En tout cas, les artistes, ils l'ont souvent introduite, parce que c'était l'élément
féminin
qui était quand même un peu trop absent de la plupart des autres représentations. Et vous l'avez alors assez souvent dans la peinture postérieure. Moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir jusqu'à quand la figure de Narcisse avait inspiré les artistes.
Et l'un des derniers, c'est Dali, en tout
alors,
cas.
Alors Dali, voilà. Dali est clair.
Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres après.
Et je suis persuadé qu'il doit y avoir quelques Narcisses dans l'œuvre de Picasso.
Ah, on va chercher.
Mais il faudrait rechercher. Vous savez, l'homme de Picasso est tellement immense. Et il a été très attiré par ces figures mythologiques. Ce qui est amusant chez Picasso, c'est qu'il a, à coup sûr, mais par l'intermédiaire de peintres impressionnistes, il a féminisé une figure de Narcisse antique. un Narcisse qui se tient avec les mains en l'air, qui regarde sans doute l'étendue d'eau. Il y a cela chez Picasso. Mais j'aimerais bien qu'on me montre un vrai Narcisse, disons. Ce n'est pas cette figure, en quelque sorte, transsexuée d'un Narcisse. Je ne sais pas. Mais ça, c'est, vous voyez, ce n'est pas ma spécialité.
Merci beaucoup. Alors, vous trouverez sur le site de l'Académie des inscriptions et belles lettres la mention des principales publications de notre invité, M. Denis Knoeffler. Ainsi que sur le site du Collège de France. Je signale aussi que votre leçon inaugurale au Collège de France, Épigraphie et histoire des cités grecques, qui est d'ailleurs parue aux éditions Fayard, on peut la télécharger sur le site du Collège, mais oui, à la rubrique « Liste des professeurs ». Que si on désire en savoir plus sur l'érétrie, eh bien on peut consulter l'un de vos ouvrages qui s'intitule « Pour un aperçu du site et de l'histoire d'érétrie ». Qui est un ouvrage avec plusieurs personnes auxquelles vous avez collaboré, et que votre ouvrage, La patrie de Narcisse, pour en savoir plus et même pour tout savoir sur Narcisse, est paru aux éditions Odile Jacob. Merci, monsieur, de votre venue et merci de nous avoir fait partager vos connaissances sur Narcisse.
Avec grand plaisir.